Bienvenue sur Prenons un café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je suis Élise Bulté et chaque mardi, je reçois un ou une humaine concernée de près ou de loin par la parentalité. Nous échangeons sur des sujets souvent éloignés des contes de fées, mais toujours passionnants et criants de vérité. Cette saison, je te propose aussi un épisode bonus chaque vendredi. Il sera composé soit d'une parole d'expert sur le sujet abordé le mardi, soit d'un épisode solo un peu drôle pour dédramatiser certains sujets de parentalité. Attention, cet épisode parle de viol et d'inceste et peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Je suis très fière de te présenter ce nouvel épisode de Prenons un café. Certains propos ne seront pas toujours faciles à entendre, mais il est à mon sens indispensable. En France, une personne sur 10 déclare avoir été victime de violences sexuelles durant l'enfance. Dans 80% des cas, ces abus ont lieu dans la sphère familiale. C'est ce qu'on appelle l'inceste. Laetitia, mon invitée du jour, est une de ces personnes sur 10 victimes d'abus causés par un membre de sa famille. Dans cet épisode, elle nous raconte son histoire, mais aussi et surtout comment elle s'en est sortie et comment cette partie de sa vie l'a forgée en tant que mère. Elle donne des pistes précieuses pour parler de l'inceste et de la violence sexuelle à un enfant, puis à un ou une adolescente, en nous partageant comment elle a abordé ces sujets avec sa propre fille, aujourd'hui âgée de 13 ans. Elle évoque également la partie judiciaire de son histoire, puisque Laetitia a porté plainte contre son bourreau, qui a été condamné. Pour toutes les victimes d'abus sexuels, pour tous les proches de victimes qui ne savent pas comment réagir, je tenais à remercier Laetitia pour son courage et sa mise à nu dans cet épisode. Il n'existe pas de mots pour dire à quel point je suis touchée par la confiance qu'elle m'a apportée en me confiant son histoire. Tu pensais être seule à galérer? Mets tes écouteurs et prenons un café. Salut Laetitia!
Salut Élise!
Bienvenue sur Prenons un café, je suis ravie vraiment de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, s'il te plaît?
Alors, je suis Laetitia, j'ai 42 ans, je suis maman d'une grande fille de 13 ans et demi. J'habite à Lille et je suis gérante de l'association Les Récoupettes à Lille.
Je vais te poser la traditionnelle question de Prenons un café. Est-ce que tu as toujours désiré être maman?
Oui, au fond de moi, oui. La question de la transmission est très très importante pour moi et du coup, ça va très bien avec la parentalité.
Ouais. Est-ce que tu as... Parce que, attends, j'essaye de faire le calcul. Tu as été maman à peu près autour de tes 30 ans.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que pour toi, c'était un désir d'être maman à cet âge-là? Est-ce que tu aurais voulu que ce soit plus tôt? Comment ça s'est passé, ce cheminement vers la maternité?
En fait, j'ai eu ma fille sans le vouloir.
D'accord.
Je me suis fait un auto-cadeau d'anniversaire, c'est-à-dire que j'ai passé une soirée très sympathique avec un homme. Et le cadeau a été que je suis tombée enceinte. Donc, je ne savais pas que j'avais envie d'un enfant à ce moment-là, mais je l'ai gardé. Et après coup, j'ai compris que inconsciemment j'en avais envie et que j'avais fait en sorte que ça arrive. Et voilà, donc du coup, c'est arrivé et c'est aussi en lien avec mon histoire.
Mais ouais, carrément. Je vais revenir juste sur cette arrivée fortuite de ta fille dans ta vie. Donc, t'étais célibataire, en fait,
oui,
à ce moment-là.
Tout à fait.
Comment tu t'es sentie à l'annonce de l'arrivée prochaine de ce bébé? Est-ce que tu as été effrayée? Est-ce que t'étais contente? C'était quoi les sentiments à ce moment-là?
J'étais à la fois très surprise et très excitée. Enfin... très enjouée. En plus, les premières personnes à qui je l'ai annoncé, qui étaient des amis, ont été tout de suite très positifs, en disant que ben voilà, il n'y avait pas de raison et que j'allais très bien m'en sortir et qu'ils avaient toute confiance en ma capacité à être maman. Et du coup, je pense que ça m'a complètement portée.
Ouais.
Et tant mieux que j'ai eu ce retour-là tout de suite. Et voilà, du coup, j'y suis allée à fond en me disant... J'étais prête de toute manière à avoir un enfant. J'étais prête à le faire seule aussi.
Ouais, c'est ça.
Ça ne me posait vraiment aucun souci, voire ça m'arrangeait.
C'est vrai, ça t'arrangeait de faire ce bébé toute seule?
Oui, parce que comme ça, les décisions ne m'appartenaient qu'à moi. Et j'avais pas besoin ni de négocier, ni de réfléchir avec quelqu'un, de trouver un compromis. Je prenais mes décisions, je prenais le temps de décider. J'étais déjà entourée de gens qui avaient des enfants, donc ça me parlait. J'avais déjà fait le parcours, enfin j'étais prête à être maman, j'avais déjà fait le parcours dans ma tête de quelle maman j'avais envie d'être.
Est-ce que ta grossesse s'est bien passée? Est-ce que tu as aimé ça, toi, être enceinte?
Oui, moi j'ai adoré être enceinte, mais forcément j'ai eu une grossesse, on va dire, complètement idéale, sans aucun symptôme, rien. Prise de poids à 9 kilos.
Ouais, vraiment.
Voilà, enfin, je dansais la salsa jusqu'à mes 8 mois et demi sans aucun problème. Donc très active, vraiment aucun souci. Le seul hic, c'est le jour de l'accouchement, j'ai fait un choc anaphylactique.
Ah mince.
Et du coup, voilà, j'ai pas vu ma fille pendant les 48 premières heures parce que du coup, j'ai failli ne pas la voir du tout.
Comment ça se passe? Du coup, tu nous en parles un petit peu? Qu'est-ce que c'est exactement?
En fait, j'ai accouché à J+4 et le col ne s'est pas ouvert. Il était ouvert à 3 et demi, quelque chose comme ça. Et du coup, le bébé fatigué, donc on est passé en césarienne. Et au moment de la césarienne, il t'injecte un produit anesthésiant qui s'appelle du curare.
Ouais.
Et du coup, j'ai fait une allergie à ce produit qui est très rare, non détectable auparavant. Mais par contre, qui a des effets. En fait, si j'avais pas été dans cette maternité-là, il n'y avait pas le sérum et je ne vivais pas. Tout simplement, il fallait qu'il y ait un anesthésiste de nuit et qu'ils aient l'antidote, entre guillemets, pour pouvoir me réveiller. Et du coup, ouais, ça a été super loin. Et...
Ah ouais, c'est pas la naissance à laquelle tu t'attendais?
Non, 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 du tout. Mais ce qui est à la fois hyper important, c'est que comme j'étais seule, j'avais prévu plein de plans B et plans C, etc. Ouais. Et j'avais pensé à toutes les possibilités. Et du coup, moi, j'étais entourée de deux de mes meilleures amies pour la grossesse et pendant l'accouchement. Et elle savait que s'il se passait quoi que ce soit, elle devait prendre le relais. Enfin voilà, on avait parlé beaucoup de ça auparavant.
Ouais.
Donc, ce qui fait que tout s'est très, très bien enchaîné. Tout le monde a su ce qu'il devait faire, entre guillemets, puisque du coup, moi, je n'avais pas du tout de famille autour de moi.
D'accord, donc ta fille, elle a été confiée à ses deux amies à ce moment-là?
Oui, tout à fait, elles ont pris le relais. Okay. Et puis il y avait le service de néonate qui a fait en sorte de faire tout ce qu'il faut,
pour
entre
elle,
guillemets. Moi, j'étais dans un autre hôpital en réa.
D'accord.
Et du coup, moi, je l'ai vue que 48 heures après sa naissance.
Waouh.
Voilà.
Comment tu l'as vécu, toi, ça, en tant que mère?
En vrai, je l'ai vécu comme une force incroyable pour vivre et absolument la rencontrer. Quand je me suis réveillée, la première chose que je voulais, c'était savoir si je pouvais quand même l'allaiter, si je pouvais, à quel moment je pouvais la voir. Et du coup, les médecins m'ont tout de suite donné les éléments en me disant, bah, faut que les médicaments soient passés. Vous inquiétez pas, de toute manière, on viendra prélever votre lait si on a compris votre demande. En tout cas, moi, j'ai été super bien écoutée. Et du coup, j'ai guéri apparemment beaucoup plus vite que la normale.
Ouais, donc, ça t'a donné une force.
Oui, vraiment, une grande force.
C'est chouette. Et alors,
et le moment des retrouvailles était...
Ouais, c'est ça, cette rencontre, quoi.
C'était la rencontre.
Ouais.
La rencontre, parce que du coup, mes amis avaient préparé la chambre, elles m'avaient fait des photos. Et puis vraiment, du coup, c'était un moment très, très magique.
Ouais.
Pas de regrets et tout le monde a fait ce qu'il fallait. Donc ça, c'était chouette. J'en garde qu'un bon souvenir.
Tu connaissais le sexe de ton enfant avant la naissance?
Oui, c'était hyper important pour moi de le savoir. Je redoutais énormément d'avoir un garçon. Pour moi, ça me posait un gros, gros problème. Et du coup, j'avais besoin de savoir absolument le sexe. Et tant mieux, c'était une fille.
Pourquoi ça te posait un problème d'avoir un garçon?
Par mon passé, tout simplement. Je ne me voyais pas élever un garçon. Je ne savais pas comment m'y prendre. Et j'avais très, très peur d'être incesteuse envers lui.
D'accord. Voilà. Et ça revient justement à la raison pour laquelle on est là aujourd'hui toutes les deux. Tu as répondu à un appel à témoins que j'ai lancé dans la nature d'Instagram, en demandant s'il y avait des personnes qui souhaitaient témoigner d'un sujet. Tu m'as répondu que tu avais envie d'entendre parler d'inceste et que si j'étais intéressée, tu pouvais raconter ton histoire. Quelle est ton histoire avec l'inceste?
Ma maman m'a eu avec un homme inconnu.
D'accord.
Et qui n'a pas voulu me reconnaître. Voilà, il a fait son choix. Et très rapidement, elle a rencontré un autre homme. Donc moi, je suis née en janvier. Ma mère l'a rencontré en mars. Ils se sont mariés en août de la même année.
D'accord.
Et il m'a reconnue tout de suite. Et en fait, cet homme a été incestueux avec moi jusqu'à mes 26 ans. Ouais, du coup, toute mon enfance, ouais, ma primo-enfance, mon enfance, mon adolescence, ma vie de jeune adulte a été baignée dans cet inceste et dans les viols de mon père, de mon beau-père, du coup.
Et ça a commencé à quel âge ?
Ça a commencé à... Alors, mes premiers souvenirs à moi sont ceux de mon premier viol pour mes 10 ans.
D'accord.
Et en fait, ça s'est passé dans une cantine, dans un espace de restauration collective. Ce qui est assez dramatique ce jour-là, c'est que du coup, ça a commencé par un jeu sexuel avec des choses à goûter, avec les yeux bandés, des choses comme ça. Et du coup, ça s'est fini en viol, puisqu'il y a eu pénétration. Mm-hmm. Juste après, en fait, il m'a dénoué les yeux et m'a annoncé qu'il n'était pas mon père.
Tu savais pas ?
Non, je
On
savais pas.
On t'avait jamais dit avant
non.
que...
Non, non, j'en avais aucunement conscience et je ne savais pas. Donc du coup, ça a été le double traumatisme. Ouais. Je sais que ma mère est arrivée juste après et j'attendais, je me voyais complètement béat devant elle en me disant « Elle va m'en parler, forcément. » Et en fait, elle m'en a jamais parlé. Donc il y a eu un silence qui s'est créé tout de suite. Ce qui lui a permis aussi de pouvoir en jouir, entre guillemets, puisque c'est pas le bon mot, mais de pouvoir utiliser ce silence à bon escient. Et ma mère est restée complètement aveugle et consciente, inconsciente, on pourrait en parler pendant longtemps. Mais en tout cas, j'ai su que j'ai pu... Moi, j'ai osé en parler à ma mère quand j'avais 22 ans, quand ils ont divorcé, en fait.
D'accord.
Donc, moi, j'ai osé... lui dire, mais en fait, c'est qui, mon père ?
Ouais.
Et je brûlais de savoir, et la seule réponse que j'ai eue à ce moment-là, c'est j'en sais rien.
D'accord.
Et du coup, le silence continue. Ouais.
Tu penses que c'est un j'en sais rien, j'ai oublié et je connaissais pas la personne, c'est une aventure d'un soir, ou c'est un j'en sais rien conscient de je veux pas vraiment te révéler son identité ?
Je pense que c'est un j'en sais rien traumatique.
Ouais.
Elle sait des choses au plus profond d'elle-même, mais ça ne ressort pas. Et du coup, elle reste murée dans ce silence qui lui convient très bien.
Ok. Est-ce que toi, enfant, tu parles de ce qui se passe avec ce beau-père ?
Non, du tout. Non, non, je me sens en fait comme une enfant à part, puisque j'ai quand même un frère et une sœur.
D'accord.
Qui sont nés de leur union après.
Oui.
Je me sens considérée toujours comme à part. Ça, c'est sûr. Le vilain petit canard, celle qui compte point du doigt, celle qui est tout le temps punie, qui est punie dans sa chambre, là où mon père, mon beau-père pouvait venir me voir et faire ce qu'il avait envie. Donc du coup, j'ai un traitement différent de mon frère et ma sœur.
D'accord. Lors de l'événement dans la cantine, ta mère, tu dis, elle est arrivée après. Elle a rien vu à ce moment-là ?
Elle dit n'avoir rien vu.
D'accord. Tu en as reparlé du coup avec elle après ?
Oui, j'en ai reparlé avec elle parce que du coup, moi, j'ai en fait plusieurs années, en fait après la naissance de ma fille, j'ai porté plainte.
D'accord. Ok.
Donc ça a été un déclencheur
D'accord.
pour moi.
Ok. Je vais revenir du coup sur ton cheminement à toi en tant que mère. Toi, tu savais au fond de toi que tu voulais être mère. Est-ce que le fait d'avoir vécu l'inceste, est-ce que ça a changé quelque chose ? Est-ce que tu penses que tu as un rapport à la maternité ou à la parentalité différent ?
Je ne sais pas s'il est différent, mais en tout cas, ce qui, moi, m'anime dans ma parentalité, c'est d'être complètement authentique et dans la vérité absolue. Mmh. Je sais que depuis toute petite, ma fille peut me poser n'importe quelle question, j'y réponds.
Ouais.
Bien sûr, j'y réponds avec les mots qu'elle peut entendre en fonction de son âge, mais ma fille a toujours été au courant de mon histoire, de quand elle était dans mon ventre jusque maintenant. Et du coup, ça fait en sorte, moi, de me sentir à l'aise dans mon rôle et de ne pas douter. Et en fait, ce que ça, moi, m'a appris mon histoire, c'est ce que je ne voulais pas devenir, ce que je voulais casser.
Mais est-ce qu'en fait, c'est ce que tu disais tout à l'heure, tu as peur d'avoir un petit garçon ? T'avais peur de devenir incestueuse ? Tu voulais dire que tu avais peur de reproduire ce qu'on t'avait fait subir ?
Oui, j'avais peur de reproduire et surtout que ce soit lu par les autres de cette façon-là.
D'accord.
Je partais très loin dans mes pensées en imaginant que quand je le lave ou quand je le manipule, mes gestes soient interprétés de la mauvaise façon.
D'accord, t'avais surtout finalement peur du regard qu'on pouvait porter sur toi plutôt que des gestes que toi tu pouvais avoir.
Oui, et j'étais complètement emprise avec le fait que c'était transgénérationnel, que c'était quelque chose qui allait passer d'une génération à l'autre et que forcément j'allais devenir moi aussi incestueuse.
Ouais.
Donc du coup je voulais complètement éviter cela.
Tu dis que c'est transgénérationnel et c'est vrai que les histoires d'inceste généralement sont transmises de génération en génération. Est-ce que la génération qui t'a précédée a aussi vécu l'inceste ?
Oui, tout à fait. En fait, j'ai pas été la seule victime et ma cousine ainsi que d'autres personnes ont été victimes de la même de mon beau-père.
D'accord.
Donc oui, et ma mère a été victime elle-même. Je pense que mes tantes également. Donc du coup. Oui, clairement, ça se joue. Et ce qui se passe aussi, c'est que dans ma famille, au plus loin que je puisse aller, il y a aussi cette histoire de femme seule qui élève un enfant.
Ouais. Mmh. Oui, parce que c'est vrai que finalement, ton beau-père n'était pas ton géniteur.
Non.
Et ça remonte à énormément. Est-ce que ta mère aussi...
Je ne peux pas remonter très loin parce que j'ai aucune donnée.
D'accord.
Vraiment, le silence continue de se perpétuer et j'ai aucune information. Donc, on ne me répond pas et de toute manière, je n'ai plus aucun lien aujourd'hui avec qui que ce soit.
Pourquoi, à un moment, ça a été important pour toi de briser ce silence ?
Parce que je l'ai brisé déjà auprès de mon beau-père en lui disant que je me rappelais très bien ce qu'il m'avait fait, mais que je continuais à avoir une relation de fille avec lui, de famille en fait, mais que je l'avais à l'œil. Et en fait, un jour m'est revenu aux oreilles le fait que quelqu'un de nouveau dans la famille, puisqu'il s'est remarié, a dénoncé le fait qu'elle avait été également attouchée par lui. Et là, ça a été le déclencheur pour moi, parce que je lui avais dit, s'il recommençait, je dirais tout. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis dit, attends, non, stop. Maintenant, je parle et je dis ce qui s'est passé. Parce que cette jeune fille, on la mettait en doute dans sa parole en disant qu'elle avait été, elle avait flirté, qu'elle s'était... Enfin, les trucs un peu bateaux, hein, qu'elle s'était habillée pour qu'il se passe quelque chose.
Parce que c'est toujours la faute des filles, de toute façon.
Enfin, voilà. Et là, ça a été insupportable pour moi. Et du coup, cet événement a été le déclencheur pour tout dire. Donc là, sa femme de l'époque m'a raccompagnée sur l'île, puisque moi je suis originaire de Bourges, en voiture. Et pendant les 5 heures de voiture, j'ai tout dit. Tout est sorti. Donc voilà, et ensuite j'ai engagé une procédure, j'ai été témoignée en pensant qu'il y avait prescription. Parce que je m'étais renseignée auparavant. Et en fait, quand je suis arrivée à la brigade des mineurs, ils ont tout de suite été voir dans le code pénal et il n'y avait pas prescription pour moi. Donc, ils m'ont dit, si vous êtes partante, on y va, quoi. Enfin, ouais. Et du coup, j'ai passé ma journée à faire le témoignage de ma vie, quoi.
T'en étais où, toi, dans ta vie, à ce moment-là ? T'étais déjà maman ?
J'étais déjà maman.
Est-ce que ta fille a côtoyé cet homme-là ?
Non, jamais. Strictement jamais. Elle l'a côtoyée, elle était en moi.
Ouais.
Voilà. Mais pas quand elle était née.
Donc tu étais déjà maman à ce moment-là. Tu avais déjà libéré la parole auprès de ta fille, puisque tu nous as dit tout à l'heure que tu lui avais déjà tout raconté. Avec ta maman aussi ?
Oui, je lui avais tout dit, mais ma mère était toujours dans le déni.
D'accord. Mmh. Elle t'a pas cru ?
Non. Jamais. Non, elle a dit que j'allais foutre la merde, que... Moi, j'ai été le vilain petit canard pour elle, donc voilà. Enfin, j'ai eu aucun soutien, aucune écoute. Il y a des moments où elle me confiait des choses, et au final, pour ensuite revenir en arrière, et le jour du procès, elle a été forcément entendue à la barre des témoins, et les éléments montraient qu'elle était forcément au courant. Elle a continué de nier et de dire qu'elle était au courant de rien, qu'elle se rappelait de rien. Donc,
d'accord.
Pour moi, ça a été le point final à notre relation, en disant que de toute manière, elle ne me mettait pas en sécurité, elle faisait pas en sorte de dire la vérité. Donc, du coup, j'avais plus de. Enfin, pour moi, c'était pas une maman, quoi. Donc, j'ai rompu tous les liens avec ma mère.
Comment ça se passe avec tes frères et sœurs ?
Je n'ai plus aucune nouvelle. En fait, c'est ce qui se passe très réellement. Majoritairement suite à un procès, tous les liens familiaux se rompent. Et du coup, moi, je n'ai contact avec une seule cousine qui elle-même a été victime.
D'accord.
C'est le seul lien. Alors, okay. On a pourtant une grande, grande famille. Mais non, tout le monde m'a tourné le dos et tout le monde pense que j'ai menti.
C'est quand même assez, assez fou.
Oui.
Parce que non seulement... C'est pas le genre d'histoire que t'inventes et en plus t'es pas seule.
Oui, puis il a été reconnu coupable.
Voilà.
Donc du coup, ils ont assisté au jugement, au tribunal. Mais je pense vraiment, foncièrement, que c'est trop difficile à accepter la vérité. Mmh. Et que du coup, c'est plus facile de dire que c'est la faute de quelqu'un. Ouais. Donc, moi, je leur en veux pas. La porte reste ouverte. Mais je pense que c'est une façon de ne pas s'effondrer que de dire que c'est moi qui ai menti. Ouais. Donc, je leur accorde cette possibilité. Voilà. C'est, je comprends.
Tu disais que cet homme avait été reconnu coupable et il a été condamné ?
Oui, 8 ans.
Ferme ?
Ouais, ferme.
Comment tu te sens, toi, à l'annonce de la sentence ?
Pas très bien.
Non.
Parce qu'on a beau libérer la parole, en fait, le plus dur, c'est l'après.
Pourquoi ?
Parce qu'une fois qu'elle est libérée, eh ben, elle est là. Donc, y a tous les ressentis. Tout est présent, tout est prégnant. Tout ton corps se rappelle. Il n'y a plus aucune zone de sécurité. Et du coup, moi, je m'effondre et je tombe en dépression à ce moment-là.
D'accord. Pendant le procès et avant tout ça, est-ce que t'es accompagnée psychologiquement ?
J'ai été... Alors, c'est très compliqué pour moi de me faire aider.
D'accord.
J'ai été accompagnée par le CIAVIC, donc qui est un service d'aide aux victimes. On m'a obligée à faire ce suivi. Donc, j'y allais avant chaque rendez-vous en lien avec le jugement. Mais une fois que le jugement a été rendu... je n'y suis pas vraiment retournée.
D'accord, tu n'as pas de suivi particulier ? Ils n'essayent pas de garder contact ? Ou c'est toi
si,
qui
ils a... essayent, ouais. Mais tant que tu n'es pas volontaire, ouais. Ça ne sert à rien. Donc, ouais. Donc non, j'ai plutôt avancé seule. Après, j'ai un médecin de famille qui connaît entièrement mon histoire et qui, du coup, a toujours était très important et en fait ça m'a suffi quelque
D'accord.
part quand j'avais besoin, quand j'avais des moments très compliqués, j'allais le voir. De toute manière, chez moi ça se réveille en, avec des problèmes de maladie, je vais avoir un état dépressif ou des choses comme ça, donc des états très bas. Donc je reconnais les symptômes et je vais le voir et ça me suffit en fait.
Ouais. Tu disais tout à l'heure que tu avais parlé de ce que tu avais vécu avec ta fille très tôt. Comment tu as abordé ce sujet-là avec, avec ton enfant ?
De manière la plus naturelle qui soit. Enfin, j'ai pas cherché à rendre ça trop formel ou quoi que ce soit, mais j'ai répondu à ses questions.
D'accord. C'était quoi ces questions ?
Bah, qui est ton papa ? Qui est ta maman ? Ça commence ouais. comme ça en fait. Hein, parce que eux, quand ils les enfants, quand ils commencent à comprendre le schéma familial, ben, forcément, ils se posent la question pour les autres. Ouais. Et du coup, ben, ça a commencé par ces questions-là. Et donc, je lui répondais le plus simplement possible. Elle s'appelle un tel, il s'appelle un tel, mais je ne les vois plus. On ne se voit plus. Après, c'est, on a été très fâchés. Ils ont fait des choses très graves. Donc des choses, des mots simples. Et je pense que pour ma fille, en tout cas aujourd'hui, elle le dit comme ça. Ce qui a été important, c'est que je réponde. Et pour moi, c'était une revanche, en fait. Comme je ne voulais surtout pas reproduire ce que ma mère et mon père avaient fait, je voulais être donc complètement l'inverse. Donc moi, la vérité, je la disais, et des fois peut-être trop vite ou trop facilement. Mais ça s'inscrit en moi de cette façon. Donc... j'ai pas envie de changer là-dessus. Mmh. Et des fois, maintenant, j'arrive à dire « Est-ce que t'es prêt à entendre la réponse ?»
Ouais. Est-ce que tu sais ou tu te souviens à quel moment le mot « inceste » a été posé dans ce que tu disais à ta fille ?
À quel moment ?
Parce que tu sais, les questions de qui est ta maman, qui est ton papa, ça, c'est vraiment des questions de petit enfant. Enfin,
ouais.
C'est pas... Et il y a un moment, est-ce que tu allais dans le temps, dans la chronologie de sa vie à elle, est-ce que tu allais à chaque fois un peu plus loin dans, ses...
oui,
dans tes réponses ?
Oui, tout à fait. J'allais toujours un peu plus loin. Mais du coup, je me servais souvent de support d'un livre, d'un roman, d'un film ou une série. Alors, les séries pour les jeunes... ados, ça marche très très bien, où on aborde des sujets importants et du coup on a toujours en fait ce rituel de regarder des choses ensemble un soir de la semaine et bah, je me suis servi de ces éléments pour aborder ces sujets.
Si jamais quelqu'un est dans ta situation, quelqu'un qui aurait vécu l'inceste aussi et qui aimerait en parler à ses enfants, est-ce que tu as des titres justement, des supports comme ça à recommander ?
Bah, il y a le petit illustré de l'intimité qui vient de sortir,
ouais.
Qui aujourd'hui peut paraître trop tard pour ma fille, mais en vrai, il est juste extraordinaire ce livre, ouais. Il parle vraiment de l'intimité et des liens avec cette intimité. Donc du coup, oui, ça c'est un support que j'aurais aimé avoir auparavant. Il y a aussi la série 13 Years Old, qui est une série en fait tournée pour spécialement pour les pré-ados et les adolescents.
D'accord.
Et qui aborde tous les sujets du suicide, de l'alcool, de la drogue, des relations sociales, des réseaux sociaux.
Ouais. Et tous les sujets qui sont un peu difficiles, a priori, à aborder en tant que parent, en fait.
Exactement. Ouais. Du harcèlement, de l'inceste, du viol. Enfin, ça parle vraiment de tout ça. Et je trouve qu'elle est très, très bien faite. Donc, ça, c'est une chouette série à regarder. Il faut y aller doucement.
Ouais.
Mais
tu la regardes avec elle, vous regardez ça ensemble?
Ouais. Ouais. Ah ouais. Non, je la laisse pas regarder non. Ça seule.
Non, bien sûr. Non, mais enfin, tu vois, je trouve ça hyper intéressant parce que tu l'accompagnes en fait.
Oui, puis on a toujours été très complices. Ouais. Alors du coup, on a vécu ces deux premières années complètement rien qu'à deux. Donc de ça est née une complicité importante. Et ma fille, elle a le côté magique de ressentir et de comprendre mes états. Et de savoir en parler ouvertement. Ça, je trouve ça assez magique. Elle met toujours le bon mot au bon moment.
C'est la magie de la communication, je crois.
Ouais,
quand tu commences à dire les choses telles qu'elles sont à ton enfant, même si c'est pas facile, même si c'est des mots qui font peur, de parler des sujets comme ça, tabous, sans complexe. Je le sors comme ça, mais oui. Et je pense que c'est la magie de la communication, en fait, ouais. Qui fait ça. Donc c'est toi qui l'as mis cette magie-là, en fait,
ouais.
Finalement, sur ta fille. Tu l'as magiée, je sais pas, tu lui as donné de la magie, des paillettes. Et c'est beau, en fait, c'est très très beau. Ta fille est ado, enfin pré-ado.
Ouais.
Quel est son rapport avec, quel est toi ton rapport avec le fait que, ben, elle va avoir une vie amoureuse, une vie potentiellement sexuelle? Quel est toi ton rapport par rapport à ça?
Mon rapport, il reste toujours sur le même niveau de facilité d'en parler.
Ouais.
Ma fille, elle peut vraiment me poser toutes les questions qu'elle veut. Qu'est-ce que c'est une fellation? Je vais lui répondre.
D'accord.
Et je vais lui répondre avec les mots qui correspondent à son âge et à son niveau de développement. Et moi, je pense vraiment foncièrement que tout peut être abordé très tôt. Donc du coup... c'est facile. Elle-même, elle me dit que ses copines n'ont pas cette chance-là, ses amis, garçons ou filles d'ailleurs, et que pour elle, elle ressent vraiment une différence avec les autres familles sur les sujets qu'elle peut aborder. Et maintenant, elle se sent à l'aise pour en parler et transmettre à son tour aussi ce qu'elle sait sur ces éléments. Mmh. Et après, elle fait ses propres découvertes.
Ouais.
Aujourd'hui, on découvre chez elle le côté intime. C'est une grande fan de manga et on la voit s'épanouir, mais en même temps rechercher des éléments de compréhension sur, sur la vie, dont elle ne nous fait pas toujours part. Et du coup, c'est voilà. Bien, il faut que ça se développe.
Elle a le droit à son jardin
elle
secret.
Elle a le droit à son jardin secret, exactement. Ouais.
Tu vois ce que tu disais dans le choix des mots, des vrais mots. Moi, ça me fait penser, et dis-moi si je me trompe, parce que moi, je ne suis pas concernée par le sujet de l'inceste, mais j'ai l'impression que les victimes d'inceste qui ont reçu des gestes sexuels qui ne sont pas appropriés, à chaque fois, on a minimisé les gestes avec des mots.
Ouais.
On dit jouer peut-être, enfin, mettre des mots enfantins sur des actes qui ne le sont pas.
Tout à fait. Et c'est bien ancré, parce que... Ça m'arrive, par exemple, que des copines me disent « oui, il y a eu tel événement à l'école, etc. avec mon enfant ». Elles parlent de « oui, mais ça joue au papa et à la maman ». Alors ce genre de choses, pour moi, c'est, dans mon corps, insupportable à entendre. Ouais. Maintenant, j'essaye de le dire avec parcimonie, parce que le but, c'est pas qu'elles se sentent attaquées, ni jugées. Parce que ce mot-là, malheureusement, il est apparu dans le vocabulaire, même s'il est complètement faux. Ça n'existe pas, ces jeux-là. Et je pense qu'il faut continuer à le dire, à le redire. Il faut réexpliquer aux enfants, reprendre la situation, reprendre les événements, et pour qu'ils comprennent qu'il y a des choses qui sont interdites.
C'est vrai qu'on a tendance à mettre des jolis mots sur les parties intimes, notamment. Par exemple, je pense à quand tu as un enfant... Et moi, la première, hein, moi, je le fais aussi. Hein, tu dis pas une vulve ou un vagin, tu vas dire une pépette, une zézette, enfin, ce genre de choses. Tu dis pas un pénis, tu vas dire un zizi ou que sais-je. Et parce qu'on n'ose pas et qu'on ne nous a pas non plus appris à dire les vrais mots. Et c'est problématique, en fait, quand ils pensent.
C'est problématique et ça ne sert que le jeu des incesteurs.
Ouais.
parce que eux, ils vont utiliser ce vocabulaire-là. Du coup, ça fait que l'enfant, il croit qu'il a un rapport familier avec la personne. Donc, ça le met en confiance. Et du coup, ça laisse toute la liberté à l'incesteur de faire ce qu'il veut. Du coup, on ne fait que servir ces éléments. En parler, libérer la parole, c'est hyper important. À partir du moment où la personne est consentante et qu'on ne la force pas à le faire. Mais c'est aussi important que les personnes témoins prennent conscience de tous ces éléments et qu'ils changent en fait leur manière d'être pour éviter de continuer à servir les propos des incesteurs et le vocabulaire et qu'ils se sentent en toute sécurité de faire ce qu'ils souhaitent.
Oui, parce qu'ils ont un sentiment de toute puissance finalement.
C'est monsieur et madame tout le monde.
Ouais.
Enfin, c'est surtout monsieur, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est une grosse majorité d'hommes, c'est 98% d'hommes. Donc, c'est monsieur tout le monde, vraiment. Ça se passe partout, dans n'importe quel
dans toutes
niveau
les
familial.
Sociales, ouais.
Il ne faut jamais croire qu'on est à l'abri de qui que ce soit. Et du coup, moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, c'était 3 enfants par classe sont touchés par l'inceste.
C'est énorme.
C'est 3 enfants par classe. C'est énorme.
C'est
aujourd'hui, on n'en prend pas assez conscience. Et moi-même, ayant été enseignante, oui, c'est vrai. Oui, parce que j'arrive à en lire certains symptômes, à voir des éléments. Et oui, ça arrive même dès la classe de maternelle, etc. Des propos, des gestes, des éléments qui te montrent qu'il se passe quelque chose qui n'est pas normal.
Mais quand t'es pas au fait, c'est difficile de... Et puis justement, encore une fois, ce vocabulaire enfantin, c'est... Enfin, j'imagine, parce qu'encore une fois, vraiment, je ne peux qu'imaginer et supposer, en fait, ces situations-là, que quand t'entends un enfant évoquer un acte qu'il pourrait recevoir, selon les mots et les termes qu'il va utiliser, ben, ça sera minimisé, en fait.
Oui, il ne faut pas oublier qu'en tant que parent, on a le droit de dire « Écoute, je reçois ce que tu m'as dit, j'ai besoin d'y réfléchir et je reviens vers toi. »
Ouais.
Et on n'est pas obligé d'apporter une réponse sur la seconde même.
Ouais, c'est vrai ça. Et sur tous les sujets.
Sur tous les sujets. Et pour moi, en tout cas, j'ai appris à utiliser des phrases types un peu de cette façon, parce que sinon, j'allais tout de suite au combat. Mais pour pouvoir y réfléchir, prendre le recul nécessaire, aller se renseigner si besoin.
Exactement.
Trouver les supports si besoin. Ne pas en faire tout de suite toute une montagne non plus. Enfin, faire attention à nos émotions qu'on véhicule et si elles sont trop fortes ou pas assez fortes, ben, c'est pas bon non plus. Et en parler.
Ouais.
En parler autour de soi parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera là pour soit vous écouter, donc trouver la personne de confiance où vous vous sentez assez à l'aise pour parler de ces sujets sans vous sentir jugé. Et ça peut être n'importe qui, ça peut être un médecin, une infirmière, ça peut être une amie, un parent, une voisine si on se sent assez à l'aise. Allez en parler, il y a toujours quelqu'un autour de vous qui a été touché. Vous pouvez vraiment faire le test en soirée, vous pouvez parler, mettez le sujet de l'inceste sur la table, vous verrez qu'il y aura toujours une personne qui a été touchée. Au moins.
Ouais, c'est clair. C'est vrai ce que tu dis. Et puis, tu vois, sur ce côté, prendre le recul et prendre le temps de réfléchir et pas donner la réponse tout de suite, c'est valable pour tellement de sujets.
Plein.
Pour à peu près tous les sujets, d'ailleurs, qui sont peut-être parfois un peu... Même les sujets bateaux, hein, finalement, si on ne sait pas combien de pattes a une fourmi, on peut dire, écoute, je ne sais pas, je vais aller me renseigner et je te dirai, mais parce qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on devient parent ou qu'on est adulte face à son enfant qu'on a ce devoir de tout savoir.
Oui, et c'est hyper important pour l'enfant de se rendre compte que les adultes ne savent pas tout.
Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est
hyper
important.
Parce que du
coup,
ça ne vous met pas dans un rapport de dominant-dominé.
Oui. Et c'est ça, en fait, le problème, finalement. C'est à cause de ce rapport-là que les situations dramatiques après arrivent.
Tout à fait. J'ai toujours pensé ma fille comme étant mon égale et elle avait le droit d'exprimer, de dire les choses autant que moi. Même si on n'est pas d'accord certaines fois, elle a le droit de le dire.
Ouais.
Et je détestais, moi, quand j'étais petite, cette phrase qui était « Fais ce que je te dis, mais fais pas ce que je fais.
» Moi aussi, je l'ai entendu, cette phrase.
C'était horrible.
C'est insupportable.
Et aujourd'hui, quand un adulte se met dans cette posture-là avec ma fille, je monte au créneau. Je me mets en position très défensive. Et aujourd'hui, mon mari, qui lui a découvert la paternité au travers le fait d'élever ma fille, il peut avoir ces représentations-là qui lui viennent de sa propre enfance.
Bien sûr.
Et tout de suite, ça met un combat. Enfin, je me sens en posture de combat, de dire, mais c'est hors de question que tu exprimes ça de cette façon-là. Elle a le droit de parler autant que toi. Et voilà, et ouais. Voilà, y a quelque chose de très virulent qui s'anime en moi, en tout cas.
Tu parles de ton mari et c'est assez intéressant parce que, du coup, ton mari est le beau-père de ta fille.
Ouais.
Je ne sais pas à quel moment vous êtes rencontrés, je ne sais pas tout ça, mais est-ce que tu as eu peur de ça, de faire entrer un homme dans la vie de ta fille?
Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours peur. Il peut toujours y avoir des choses. Je suis pas tout le temps aux aguets parce que il y a la confiance et puis il y a le nombre d'années qui passent. Maintenant, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Mais il y a toujours quelque chose. Là, avec l'arrivée de l'adolescence, le corps qui change, forcément, il y a des pensées qui passent, mais ce ne sont que des pensées.
Ouais.
Et en fait, ce qui, moi, me raccroche à la vie, c'est la psychologie positive, c'est de combattre ces pensées en me disant, est-ce que c'est réel ? Je suis de formation, en tout cas, j'ai suivi une grosse formation sur le comportementalisme et j'ai suivi des enfants autistes pendant très longtemps. Et ça m'a beaucoup servi à moi pour me structurer et savoir comment je pensais. Et du coup, je sais que ces pensées, elles sont dans ma tête et que ce n'est pas une réalité. Et du coup, je vais faire cette analyse pour pouvoir éviter que je monte en épingle. Mmh. Voilà. Parce que ben, ça se réveille tout de suite.
Bah oui. Ce qui est normal, enfin, voilà. C'est la réponse du corps traumatisé,
oui.
Aussi.
Et j'hésite pas à lui en parler.
Bah, c'est ce que j'allais te dire, quand tu l'as rencontré, est-ce que tu lui en as parlé tout de suite
tout
ça ?
Ouais. Moi j'avais vraiment besoin qu'il sache où est-ce qu'il mettait les pieds.
Ouais.
En plus, oui. Bon, je l'ai rencontré, je venais de porter plainte. Hein, donc
il était là pendant, ouais, toute la procédure et tout ça.
Il est venu au procès, donc du
faut
coup,
s'accrocher, oui, pour un début de relation comme,
oh,
ça.
Oui.
Il y a des débuts de relation plus simples que d'autres, on va dire.
C'est ça.
Et il a été tout de suite, enfin, il a réagi tout de suite. Bah, j'imagine que oui, sinon tu ne serais plus avec lui. Mais il a été tout de suite avec toi. Enfin, il a réagi.
Oui, oui, oui. Et il est surtout resté lui-même.
Ouais.
Il n'a pas essayé de jouer un jeu. Il n'a pas essayé d'être le chevalier servant qui sauvait sa princesse. J'aurais pas supporté. Et il a grandi. Il a évolué avec moi.
Ouais.
Parce que du coup, il n'y a pas que des hauts. Il y a beaucoup de bas. C'est pas facile à vivre au jour le jour. Forcément, ça a une incidence sur tout. La sexualité, ta vie personnelle, tes liens avec les autres, ça a des incidences sur tout. Donc, il faut pouvoir décrypter pour pouvoir réexpliquer ensuite. Et ça change.
Ouais.
Ça change. Enfin, moi, j'ai l'impression de changer et d'évoluer encore aujourd'hui. Donc, il faut que ça suive derrière.
Ouais. Bien sûr.
Parce que lui, il n'est pas dans ma tête, il n'est pas dans mon corps. J'ai eu des gros, gros changements sur mon lien au rapport sexuel, tout simplement, enfin, ne serait-ce que ça. Donc du coup, forcément, les montagnes russes.
Ouais, il faut suivre.
Et oui, ce que j'ai toujours admiré, c'est sa loyauté. Donc du coup, c'est quelqu'un de très loyal. On verra jusqu'où.
Ouais, ouais, mais regarde, j'imagine que tu fais... Enfin, vous communiquez certainement beaucoup aussi.
Ça commence toujours par un gros clash et après on communique. Voilà.
C'est votre façon d'amener la communication.
Exactement.
Comme dans toute relation, il y a une façon
d'abord
de
un
faire.
Gros malentendu. Ouais. Il faut que moi, je puisse décrypter de mon, ouais, côté et redescendre. Et ensuite, oui, ça communique.
Ouais. Mais c'est finalement un peu comme avec ta fille, finalement, c'est un peu la clé de tout, la communication.
Ouais, ouais.
Et c'est vrai que c'est une phrase qui paraît bateau parce qu'on la sort à toutes les sauces. Mais c'est tellement vrai.
C'est vrai.
C'est tellement vrai dans le couple, dans les relations avec les enfants, dans les relations familiales, même avec les parents. Enfin, avec tes amis aussi. Enfin, je veux dire, si tu communiques pas, on arrive tout de suite sur des quiproquos et sur des situations
et
qui sont compliquées.
Et même dans l'entrepreneuriat.
Ah bah, surtout, oui. Oui, en effet. Oui, j'en ai bien l'exemple, j'en ai bien quelques-uns en tête, en effet. Non, mais c'est vrai que c'est hyper important que la communication avec l'autre, en fait. Enfin, il faut aussi comprendre que personne n'est dans nos têtes, quoi.
Ouais.
Et que si on ne dit pas les choses, en fait, la personne ne peut pas le savoir. Sur un ressenti, en tout cas, pas sur des faits, parce que des faits peuvent être vus par autrui, mais sur des ressentis, on ne peut pas savoir.
Exactement.
Et c'est tellement important. Donc, du coup, quand tu as rencontré ton mari, tu as mis longtemps avant de le présenter à ta fille ?
Non. Non, non, parce qu'elle était dans ma vie au jour le jour.
Ouais.
J'avais pas de moyens de garde. On s'est rencontrés sur OVS. Je sais pas si tu connais cette...
C'est On va sortir. Si, je connais parce, ouais, que ma mère l'utilise.
et du coup, moi, j'avais fait... voilà, je suis quelqu'un de sociable. Mais j'avais forcément ma fille, pas de moyens de garde. Du coup, je créais des sorties chez moi.
D'accord.
Pour pouvoir rencontrer des gens.
Okay.
Au moment où elle était couchée. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Ah, c'est chouette.
Et donc forcément, s'il venait chez moi, il voyait que j'avais un enfant.
Oui, c'est difficilement
cachable,
camouflable.
Ouais. Donc j'ai pas triché. Ouais. Et du coup, je me serais même pas douté qu'il se serait intéressé à moi, vu le contexte. Ouais. Mais c'est arrivé.
Bah, c'est chouette, c'est trop chouette. Quel est le conseil que tu donnerais à une personne qui a vécu l'inceste, qui s'apprête à être maman ou qui l'est déjà, qui se pose la question de la parentalité? Qu'est-ce que tu lui dirais?
Quel conseil je lui donnerais?
Ou papa, parce qu'il y a aussi des petits garçons qui sont victimes d'inceste. Donc
voilà, d'apprendre à s'écouter, d'apprendre à décrypter ce dont elle a besoin et ce qu'elle ne supporte pas. Et ensuite pouvoir le communiquer à autrui. Je pense que moi, ce qui me permet d'avancer, c'est de me connaître. De connaître mes limites, de savoir que c'est insupportable pour moi d'être câlinée ou de manière trop forcée ou des choses comme ça. Donc, je peux avoir des gestes d'affection, mais pas tout de suite et pas très vite. Donc, connaître ses limites et connaître son corps, sa façon de fonctionner, et qu'il n'y a rien d'immuable. C'est-à-dire que ça peut être inscrit à un moment donné de cette façon-là et que ça peut changer au fur et à mesure. Les hormones, les rencontres, ouais. La vie, tout simplement, fait que tu n'es pas immuable.
Non,
et que quelque chose qu'on a pensé ne pas faire à un moment donné peut très bien être quelque chose que tu feras à un moment donné.
Ouais.
Mais juste écouter.
Puis il n'est jamais trop tard pour parler.
Ouais,
aussi.
Jamais.
Jamais, même si parfois il y a prescription auprès de la justice, il est quand même jamais trop tard
pour
parler.
On a quand même le droit de déposer un témoignage et ça peut toujours servir à quelqu'un. Moi, c'est ça qui m'a animée au démarrage. Et c'était une avocate qui me l'avait dit. Elle m'a dit, mais en fait, vous pouvez très bien aller déposer un témoignage. En effet, s'il y a prescription, ce sera rangé, mais ça peut très bien servir à quelqu'un un jour.
Parce que si quelqu'un vient porter plainte et n'est pas sous le régime de la prescription, ils s'en serviront du coup.
Exactement.
Ok. Merci beaucoup Laetitia pour ta confiance, pour tes mots, pour ça, pour le partage. C'est important, je pense, de le faire, de lever le voile sur ce sujet-là, sur tous les sujets tabous, mais en particulier celui-là. Je suis ravie d'avoir rencontré, d'avoir fait ça avec toi et puis à bientôt.
À bientôt, merci.
J'espère que ce nouvel épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre des étoiles et des commentaires sur Apple Podcasts ou iTunes pour m'aider à mettre en avant le podcast. Tu peux aussi partager l'épisode sur tes réseaux sociaux, en parler autour de toi, bref, faire en sorte que Prenons un Café soit connu du plus grand nombre. Tu peux aussi soutenir Prenons un Café sur Tipeee. J'ai très envie d'emmener le podcast encore plus loin, mais pour ça, j'ai besoin de toi. Alors si le cœur t'en dit, tu peux entrer dans l'aventure avec quelques euros. En échange, de nombreuses contreparties trop sympas t'attendent. Rendez-vous sur la page Tipeee de Prenons un Café. Tu es sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je te retrouve vendredi pour une parole d'expert pendant laquelle un avocat nous expliquera tous les recours pour les victimes de violences sexuelles et bien sûr mardi prochain pour un nouveau témoignage. Abonne-toi à Prenons un Café sur ton appli de podcast préféré pour ne rien manquer. D'ici là, prends bien soin de toi. Autour d'un café.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There's stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like, worry the police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.